le pays du Vietnam, c'est un.
But Britain is not saying goodbye to Hong Kong.
Histoire d'Asie, le podcast qui retrace l'histoire asiatique en faisant parler de jeunes chercheurs.
Peut-être qu'en restituant ce passé, c'est-à-dire l'importance de l'Asie, ça poussera à penser.
Pour ce second épisode, je reçois Eleanor Nancy, qui a pris un premier cycle en histoire de l'art de l'Extrême-Orient à l'école du Louvre, une licence de chinois à l'INALCO, vient de terminer son Master 1 à l'École pratique des hautes études. Nous allons parler ensemble de son mémoire, la sculpture sino-tibétaine en métal doré de l'époque Ming, 1368-1644. C'est la question rituelle du podcast, Eleanor. Pourquoi l'Asie?
Bon alors, merci de ton invitation sur Histoire d'Asie. Pourquoi je m'intéresse à l'Asie? Ça remonte à l'enfance, on va dire. Ma maman a une formation d'historienne d'art aussi, et donc ça m'étonnerait pas que j'ai fait mes premiers pas dans un musée, mais elle m'a surtout très vite emmenée au musée Guimet à Paris. Alors je sais pas ce qui s'est passé puisque elle est pas du tout spécialiste de l'Asie. Beaucoup travaillé dans ce musée dès mes 8 ans. Donc j'ai sûrement dû être imprégnée assez rapidement par ces esthétiques. J'ai aussi appris le chinois dès le lycée, c'est-à-dire que je faisais de l'allemand première langue, section européenne, la totale. Mes parents voulaient que je passe le bac allemand. Je leur ai dit qu'ils ne m'obligeaient pas à faire ça. Je déteste l'allemand, j'en ai marre. Ils m'ont dit pas de soucis, mais plutôt autre chose. Et donc dans mon lycée, il y avait une option de chinois. J'ai vu de la lumière, alors je suis entrée et finalement ça a complètement bouleversé mes projets d'orientation. J'ai adoré la Chine, j'ai adoré sa langue, son écriture. Même si c'était assez superficiel, hein, c'était pas très lourd dans l'emploi du temps, mais ça m'a poussé même à continuer après le bac. Et maintenant, j'apprends le tibétain. Et ce qui me fait rire, c'est que récemment, ma maman me disait, oui, quand j'étais petite, tu lisais beaucoup les BD Tintin. Comme si c'était écrit dans les étoiles, je disais que les deux que je lisais le plus souvent, c'est le Lotus 2 et Tintin au Tibet.
Ah, c'est vrai qu'on a tous, et ça pour en parler avec beaucoup d'étudiants, ou même moi, c'est vrai que le musée Guimet, Tintin et surtout Tintin au Lotus Bleu, ça a été pour beaucoup vraiment une porte d'entrée. Parfois dans le monde asiatique, assez, on va dire, ça fait un peu comme un flash, comme si c'était parfois une évidence. Et moi, c'est pour ça que j'adore emmener mes élèves au musée Guimet, car je vois toujours le regard, parce que généralement, c'est la première fois qu'ils vont visiter le musée Guimet, et je vois toujours, quand ils découvrent la grande salle d'encore, hein, il y a toujours cet étonnement, un peu cet effet waouh qui les prend à chaque fois. Tout comme là, la nouvelle grande salle avec le grand Bouddha du musée au musée Cernouchi, qui est toujours, ouais, qui accroche vraiment, accroche vraiment le regard. Au mois de juin 2020, donc tu viens de terminer donc ton mémoire qui, je le répète, s'intitule donc la sculpture sino-tibétaine en métal doré de l'époque Ming 1368-1644. Pour te dire, moi je ne connais rien, absolument peu de choses, on va dire, ou le minimum sur l'art asiatique, on va dire, de façon très, enfin je connais vraiment les bases, mais je ne connais absolument pas les choses en profondeur. J'ai pris beaucoup de plaisir déjà à lire le mémoire parce que j'ai appris beaucoup de choses. On va d'abord définir ce qu'est l'art sino-tibétain, faisant, je pense, un peu de contexte historique, voire géographique. Alors déjà, parle-nous de ce contexte historique. Comment s'est créée cette hybridation entre art chinois et art tibétain?
Et ben en fait, ça commence par une interaction politique, non pas entre chinois et tibétains, mais entre mongols et tibétains. Et quand je parle d'interaction politique, c'est plutôt interaction de guerre. C'est-à-dire que les mongols vont entamer leur conquête de toute l'Asie septentrionale, donc de la Corée jusqu'à la Perse, voire un petit peu plus loin, à partir du règne de Genghis Khan, donc tout début du XIIIe siècle, toutes premières années. Et donc les descendants de Genghis Khan vont poursuivre évidemment ce rêve d'empire, et c'est Godan Khan qui va en particulier s'occuper du cas tibétain, vous allez. Donc Godan Khan, c'est le petit-fils de Genghis Khan. un de ses nombreux petits-fils. Il arrive aux portes du Tibet vers 1239. Ça se passe très mal pour les Tibétains. Beaucoup de monastères sont détruits, beaucoup de morts, beaucoup de pillages. C'est en entrant en contact avec l'ordre des Shakyas, donc c'est un ordre monastique complètement tibétain à la base, qu'ils vont se convertir au bouddhisme. En fait. Alors apparemment, cet attrait pour le bouddhisme date pas de ce moment-là. Ils ont des contacts avec le bouddhisme déjà avant, puisqu'ils prennent les territoires des Shishya, qui est une dynastie qui tend à se similer, qui va prendre le bouddhisme comme religion d'État. Donc déjà avant, les Mongols ont cet attrait pour le bouddhisme, et ce qui va les intéresser surtout, c'est les pratiques magiques. C'est des choses qui correspondent assez bien à leur mode de vie qui est chamanique à la base. L'aspect magique dans le bouddhisme tantrique va leur donner envie de s'investir dans le bouddhisme tibétain. Et c'est ce qui va finalement sauver le Tibet, puisque la conquête guerrière s'arrête là et les Tibets entrent sous protectorat des Mongols.
Alors, ils se sont convertis, donc tu dis que les Mongols se sont convertis au bouddhisme. Ils avaient quoi comme religion avant? La religion mongole, c'était quoi?
C'est le chamanisme.
Le Tibet est sous protectorat mongol à partir de quelle date?
Bah, à partir de leur conversion au bouddhisme, je dirais. Hein, donc, 1250.
Vers 1250, donc, le Tibet devient un protectorat mongol. Voilà, première étape de cette hybridation sino-tibétaine.
Pourquoi on va parler d'art sino-tibétain? C'est parce que les Mongols se rendent maîtres de la Chine dès la fin des années 60, des années 1260. Et c'est Kublai Khan qui fonde sa dynastie, la dynastie Yuan en Chine, en 1271. Il va patronner l'art tibétain à la capitale, qui est Khanbalik, et donc c'est la capitale. De nombreux lamas, moines, personnalités tibétaines, artisans vont venir à la capitale. C'est à partir de là qu'on va parler véritablement d'art sino-tibétain.
Donc, seconde étape, Kublai Khan, donc fondateur de la dynastie des Yuan et de la capitale Beijing, donc qui fait venir ces artistes, et donc cette relation sino-tibétaine poursuit jusque, donc on va arriver à la période de ton mémoire, à la période donc des Ming, qui vont entretenir donc cette relation avec le Tibet que les Mongols ont commencé.
Voilà, c'est ça. Donc à l'avènement de la dynastie Ming, la conquête de la Chine est complétée. Ils vont bouter un peu les Mongols hors de Chine, et très vite vient la question du Tibet. Qu'est-ce qu'on fait du Tibet? Le fondateur de la dynastie Ming, qui est Rongbu, qui commence à régner en 1368, n'exclut pas de pouvoir mettre la main sur le Tibet. Des batailles assez nombreuses vont avoir lieu sur les marges sino-tibétaines, et en fait ces batailles vont s'éterniser vraiment très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à entrer au Tibet et à prendre les villes tibétaines. Et c'est son fils, qui est Ming Yongle, donc 1402-1425, qui va tenter une autre approche. Donc lui, il est intéressé par le bouddhisme tibétain, et il va plutôt tenter de prendre le Tibet par essentiellement, en ce moment. Il va reprendre le modèle qu'avait initié Kublai Khan de patronage du bouddhisme tibétain pour garder la main pacifiquement sur le Tibet. C'est-à-dire que c'était assez dangereux de laisser le Tibet sans pouvoir contrôler ce qui s'y passait, puisque comme les Tibétains avaient été très très bien traités par les Mongols, il aurait été facile pour eux de s'allier entre écoles, parce que le Tibet au début du 15e siècle, c'est encore à la fin du 14e siècle et à la fin du 15e siècle, c'est encore un patchwork de seigneurs et d'écoles bouddhistes qui se perdent aussi. Il aurait été plus facile pour eux de s'allier entre eux et avec les Mongols contre la Chine, qui était absolument hors de question. Mingyongle va patronner un certain nombre d'écoles en faisant venir à la cour tous ces hiérarques en leur offrant de nombreux et somptueux cadeaux à chaque fois.
Et en fait, il cherche à diviser en fait pour mieux régner. Hein. Il favorise certains hiérarques tibétains. Aux dépens d'autres hein, pour asseoir, disons, sa domination sur le Tibet.
C'est exactement ça. C'est diviser pour mieux régner. Vous pouvez pas mieux dire. Parmi ces cadeaux diplomatiques, il y a beaucoup de statues bouddhiques en métal doré très précieuses qui seront fabriquées et on en a des listes assez précises leur nombre leurs iconographies on a des témoignages de ces listes de cadeaux que l'empereur envoyait à ses hiérarques et qui d'ailleurs aussi peuvent effectivement être identifié dans certains monastères tibétains.
Cette politique de Yongle, donc que tu as étudié, cette politique tibétaine de Yongle, est-ce que aussi elle n'est pas mise en place parce que Yongle est quand même un empereur qui est aussi porté sur l'extérieur, parce que c'est quand même lui, par exemple, qui a envoyé le marin chinois Zheng He faire un tour du monde, qui va aller jusqu'en Afrique. C'est lui, par exemple, c'est aussi un empereur qui est assez important, hein. C'est lui qui, par exemple, a créé la Cité Interdite. Est-ce que ça rentre, est-ce que cette politique, on va dire, d'ouverture, est-ce que c'est aussi une des raisons pour laquelle ça reste aussi au Tibet?
Si, c'est tout à fait ça. Parce que, en fait, l'histoire de l'accession au trône de Yongle est assez mouvementée. Il fait assassiner, on n'est pas sûr, mais en tout cas, ça se passe assez mal pour son neveu qui est l'empereur qui le précède, l'empereur Tianwen, qui est régné pas très très longtemps, un an ou deux ans. Et il est en mal de légitimité finalement. Donc la politique d'expansion diplomatique entre complètement dans cette volonté de se légitimer, puisque comment ça fonctionne la diplomatie dans l'empire chinois et chez les Ming en particulier. Donc on envoie un diplomate chez les royaumes voisins. Ces derniers doivent reconnaître l'empereur comme tel et reconnaître l'empire chinois comme son souverain. Et donc il doit lui envoyer un tribut tous les ans. En échange, l'empereur lui renvoie des cadeaux encore plus somptueux pour asseoir sa domination politique et économique. Et effectivement, Mingyongle envoie par-delà les mers son amiral Zheng He, qui est d'ailleurs un eunuque musulman. On peut à partir de là affirmer que la Chine des Ming est extrêmement cosmopolite et c'est sûrement dû à cette expansion diplomatique. Donc Zheng He prend le commandement de la merveilleuse flotte de Mingyongle et il va aller comme ça aux Philippines, en Asie du Sud-Est, jusqu'en Inde, jusqu'au détroit d'Ormuz et même jusque sur les côtes est-africaines, c'est-à-dire que il existe une peinture qui représente une girafe en cadeau tributaire pour l'empereur chinois. Il est allé assez loin. Tout ça pour asseoir sa légitimité et se prouver à lui-même qu'il est bien l'empereur chinois.
Ces statues, ce sont donc, comme tu l'as bien dit, donc des outils. Donc ce sont des outils diplomatiques. Alors aussi ces statues, par qui elles étaient fabriquées ? Alors par qui elles étaient fabriquées ? Elles étaient fabriquées à Pékin, dans les ateliers impériaux, faisait venir des artistes tibétains dans la capitale pour les fabriquer ou comment ça se passait?
Déjà sous la dynastie Yuan, les statues sont fabriquées dans des ateliers impériaux complètement dédiés à ça, aux cadeaux diplomatiques pour les arts tibétains et notamment Kublai Khan qui est venir à Pékin, un artisan népalais extrêmement reconnu à l'époque, qui s'appelle Anigu en chinois et c'est Arniko je crois en népalais. Il va prendre cet artisan va prendre en charge le programme de cadeaux diplomatique tibétain. Il fait construire aussi un tas de stupa à la capitale. Donc c'est lui l'artisan au sens propre et au sens figuré de la politique de cadeaux diplomatiques sino-tibétaine. Et en fait, il vient pas seul, il vient avec un contingent d'artisans népalais et tibétains. Ils vont former sur place les artisans chinois. Ils vont les former à l'iconographie et à la technique. Quand Lénine arrive au pouvoir, il est très probable qu'il récupère ces artisans chinois formés par les artisans népalais. Ce sont toujours des artisans chinois en majorité. Très probable que des artisans tibétains aient continué à venir depuis le Tibet à la capitale. Donc on a probablement des équipes multi-ethniques dans les ateliers impériaux. Les ateliers impériaux, on sait que certains ateliers des monastères aussi pouvaient prendre cette initiative, notamment à Hangzhou. Donc Hangzhou qui est finalement un grand centre pour l'art sino-tibétain, mais moins pour la sculpture, il me semble. Plus pour la xylographie et pour la sculpture monumentale.
On a tressé donc une sorte de panorama donc historique de cet art sino-tibétain, donc qui prend sa source dès le 9e siècle à l'époque mongole, puis se poursuit donc jusqu'à la période de ton mémoire sous la dynastie Ming avec cet empereur Yongle. Maintenant donc dans ton mémoire donc on va justement voir comment s'exprime l'art sino-tibétain avec ton objet d'étude qui est le Bodhisattva côté MG11-281 du musée Guimet, donc qui va nous donner vraiment tous les détails de ce courant artistique. Alors déjà, première chose, cette statuette donc dorée que tu as étudiée, ce Bodhisattva, donc c'est une iconographie du bouddhisme tantrique. On va pas revenir sur la vie de Bouddha, bien sûr, c'est un podcast n'y suffirait pas, mais déjà, on peut, je crois, essayer de définir ensemble avant qu'est-ce que c'est que ce bouddhisme tantrique, ce bouddhisme tibétain.
Mais avant, faisons un petit peu de bouddhiste pour les nuls.
Oui, alors bon, la base de la base, le bouddhisme, c'est une religion qui naît en Inde du Nord, donc autour des plaines du Gange probablement, dans les états du Bihar et du Maharashtra et sur les contreforts du Népal. Vers le 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, l'enseignement de Bouddha se résume en quatre vérités qu'on appelle les quatre vérités des nobles. Alors il y a une mauvaise traduction, on peut lire beaucoup dans les textes. Les quatre nobles vérités, mais non, c'est les quatre vérités des nobles. Donc ces quatre vérités, elles prennent exactement la forme d'un diagnostic médical. Le monde n'est que souffrance. Quoi qu'il arrive, les hommes souffriront. La deuxième vérité, c'est que cette souffrance, elle est causée par le désir. Troisième vérité, c'est que tout bêtement, il existe un moyen de s'en débarrasser, de se débarrasser du désir. Et quatrième vérité, il suffit d'emprunter la voie de l'octuple chemin, que Bouddha explique comme ça, la vie juste, les moyens de subsistance juste, la parole juste, la pensée juste, etc. Rester modéré, c'est-à-dire que il ne faut pas être trop zélé ou trop heureux, puisque le Bouddha a expérimenté ça. Avant d'atteindre l'éveil, il a expérimenté une longue période d'ascèse, ce qui lui a fait comprendre que ça n'allait pas du tout l'amener à atteindre l'éveil.
D'accord. Alors le but du bouddhisme, c'est d'atteindre l'éveil, d'atteindre le nirvana. C'est quoi le nirvana?
En fait, le nirvana, on ne peut pas lui donner une définition par l'affirmative. On ne peut que le décrire parce qu'il n'est pas. Le nirvana, ce n'est ni la vie, ce n'est ni la mort. Ce n'est pas un état intermédiaire. Mais pour donner une définition quand même un peu simple par l'affirmative, c'est un état d'extinction. On ne se situe plus dans ce cycle de réincarnation. La tradition indienne, brahmanique, veut que les êtres se réincarnent vie après vie selon leurs actes. Le bouddhisme prône une sortie totale de ce, une extinction totale de ce cycle de renaissance qui est cause de bouddhisme. Voilà.
Alors, dans le bouddhisme, il y a donc deux écoles, l'école Theravada, donc qui est assez, élitiste. Il y a l'idée, en fait, que seule une minorité d'êtres pourront atteindre cet éveil. Et on a l'école Mahayana, elle prône que tous les êtres, donc, peuvent atteindre l'éveil. J'ai bien compris?
Alors, oui, c'est à peu près ça. Juste, ce ne sont pas des écoles, hein. Ce sont vraiment des courants du bouddhisme. Ce sont les courants majeurs du bouddhisme. On parle pas d'école.
Ah, on parle pas d'école, d'accord.
Et alors, le Theravada, on parlera pas de Theravada puisque le Theravada désigne le bouddhisme qui a cours aujourd'hui en Asie du Sud-Est. On parlera plutôt de bouddhisme ancien. Le Theravada est du bouddhisme ancien moderne. On parlera plutôt de bouddhisme ancien. Et oui, effectivement, c'est plutôt une vision élitiste. Seuls les moines peuvent atteindre l'éveil. On ne peut atteindre l'éveil que si on prend vraiment à bras le corps les préceptes du Bouddha. Donc les laïcs sont complètement exclus. C'est avec l'arrivée du courant Mahayana que les laïcs vont pouvoir eux aussi prétendre à l'éveil, prétendre à influer sur leur réincarnation.
D'accord. Et donc c'est ce bouddhisme Mahayana qui va se diffuser au Tibet et qui va donner naissance et qui donne naissance au bouddhisme tibétain.
C'est ça. Le Mahayana va se diffuser dans toute l'Asie en réalité.
À quelle période il se diffuse?
Dès son apparition en réalité, dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Puisque en fait comme le Mahayana Mahayana ça veut dire grand véhicule, c'est-à-dire que c'est une image, grande charrette. La grande charrette permet d'emporter plus de monde vers l'éveil. Comme de nature le Mahayana est vraiment prosélyte, on peut emmener beaucoup de monde vers l'éveil. Il se diffuse tout dès son apparition, très très vite. Il y a deux routes. Il y a la route maritime par l'Asie du Sud-Est qui va traverser comme ça toute l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, l'Indonésie jusqu'en Chine. Et il y a la route terrestre qui part plutôt vers l'ouest, à travers toute l'Asie centrale, le Tibet, l'Afghanistan, jusqu'en Chine. Et évidemment, il prend cette route commerciale qui est la route de la soie, qu'on appelle tout simplement encore la route de la soie, et arrive comme ça jusqu'au Japon. Et la diffusion dure sur 5 ou 6 siècles.
Ce bouddhisme tibétain, donc, alors, c'est pratique. Alors, au niveau de la pratique, hein, au niveau des pratiques religieuses, donc, il mélange textes. Alors qu'on appelle les tantras,
oui.
Hein, qui servent à se mettre dans un état de méditation. Tu parles aussi de mantras. C'est quoi justement la différence? Le tantra, donc si j'ai bien compris, c'est le texte religieux. Et le mantra?
Alors, les tantras sont les textes du bouddhisme Vajrayana, donc une extension directe du Mahayana. C'est-à-dire que c'est un troisième courant, mais il en est une extension. Et les mantras, eux, sont des pratiques orales magiques qui ne sont pas des textes, ce sont simplement des répétitions de sons. C'est une ligne de sons,
ouais.
Qui représente qui sont les sons tels qu'ils sont en dehors du voile d'illusion qui couvre les yeux des hommes.
Donc ces sons que les pratiquants répètent.
C'est exactement ça, le fameux om comme ça, c'est un son de mantra.
Ce bouddhisme tibétain, donc, il s'appuie donc sur des textes, sur des sons et aussi des techniques magiques. Alors, c'est quoi ces techniques magiques?
Alors, tout à l'heure, tu parlais de méditation. La méditation, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important dans le Mahayana. Ce qui change avec le Vajrayana, avec le bouddhisme tantrique, c'est la visualisation. C'est-à-dire que le yogi, le pratiquant, va visualiser la déité d'élection par la méditation. Donc, il se met en méditation et visualise la déité, lui fait des offrandes, il se visualise en conversation avec cette déité. Donc la visualisation en soi est une technique magique. On parle de moyens habiles dans le bouddhisme. C'est un moyen habile pour atteindre l'éveil. Les moyens habiles existent déjà dans le Mahayana, mais ceux-là ceux du Vajrayana sont plus efficaces, on va dire. Comme autre pratique magique, on a la pratique du rêve, du rêve yogi. Le yogi va essayer de contrôler ses rêves, de faire des rêves éveillés. Hein. Le rêve éveillé, c'est une pratique magique qui va permettre, par exemple, au yogi, au moment de sa mort, de traverser les bardos. Donc le bardo, c'est un état intermédiaire entre deux vies, et c'est ce qui va lui permettre d'entrevoir à ce moment précis la réalité sous-jacente des phénomènes. Et ce qui va lui donner un avantage dans sa vie suivante pour encore progresser et atteindre le rêve. Donc c'est se mettre dans des états de méditation et de visualisation tellement profonds que le yogi va pouvoir apercevoir à travers le voile des illusions cette lumière parfaite.
Aussi, ce bouddhisme tibétain, il a tout un panthéon, et c'est le sujet de cette statue. C'est que ta statue, dans le panthéon du bouddhisme tibétain, tu as étudié une Avalokitesvara. Désolé pour la prononciation. Qu'est-ce que c'est dans ce panthéon bouddhiste, cette statue Avalokitesvara?
Alors, on parle d'Avalokitesvara au masculin.
D'accord, c'est un, d'accord.
En chinois, on parle de Guanyin, et Guanyin est plutôt féminisé, en fait, en Chine.
D'accord.
Mais l'Avalokitesvara du bouddhisme indien, on parle de lui au masculin, à la base. Donc, c'est un bodhisattva, c'est-à-dire que c'est un être promis à l'éveil. Il en a absolument toutes les capacités, mais par pure compassion, il retarde son éveil et se promet d'aider tous les êtres qu'il reste encore à mener sur le chemin de l'éveil. Donc c'est une expression pure de la compassion. C'est une des figures majoritaires du Mahayana et donc du Vajrayana. C'est-à-dire que les bodhisattvas, ils sont nombreux, ils apparaissent avec le Mahayana et non pas avant. Et avec eux apparaît l'idéal du bodhisattva, c'est-à-dire l'esprit du bodhisattva qu'on appelle en sanskrit bodhicitta. Donc un esprit de pure dévotion à son prochain pour l'aider à se mettre sur le chemin de l'éveil, soit à bien rester sur ce chemin. Et donc ma statue représente ce bodhisattva extrêmement important au Tibet.
D'accord. Alors cette statuette, elles sont priées par les fidèles. On leur donne des offrandes. Comment se passe au niveau des pratiques religieuses? Quelle est leur place?
Alors, ces statues, elles vont prendre place effectivement sur des autels, dans des temples, faire l'objet de dévotions. Elles vont être nettoyées, entretenues.
Cette Avalokitesvara, toi, tu as étudié donc sa version chinoise, qu'on appelle, donc qui est très connue en Chine, sous le nom de Guanyin. On parle de la même déesse Guanyin qu'on retrouve dans les ports généralement, parce que elle est considérée un peu comme une déesse de la mer.
C'est la même chose, c'est pas la même chose finalement, puisque la Guanyin chinoise est une expression purement issue du Mahayana et non pas du Vajrayana. C'est-à-dire que Guanyin va se féminiser et devenir une déesse de la mer, et de la mer au sens propre et au sens figuré, de la mer l'océan et de la mer les mères, les femmes qui enfantent. Mais la statue que j'étudie, son iconographie est complètement centrique, pas féminisée. Donc les deux iconographies ne peuvent pas être rapprochées aussi facilement que ça, en réalité.
Ah d'accord. Oui, en effet, quand on regarde les photos, c'est vrai qu'elle est complètement différente des immenses statues de Guanyin. On a par exemple sur l'île de Sanya, par exemple.
C'est ça, oui, voilà.
D'accord. Donc Guanyin, qui on le rapporte, qui est aussi connu au Japon. Alors c'est uniquement pour anecdote, sous le nom de Ganon, et c'est ce nom de Ganon qui a donné naissance à la marque japonaise Canon, la déesse qui regarde le monde.
C'est ça.
Et ta statuette, elle a été fabriquée quand?
C'est tout le problème. C'est-à-dire que quand je suis allée au Mugnet prendre des photos, prendre contact avec l'objet, quoi, j'ai reçu le dossier d'œuvre et j'avais deux datations différentes et pas des datations extrêmement précises. C'est-à-dire que beaucoup de statues cyno-tibétaines d'époque Ming sont datées par inscription épigraphique, mais pas celle-là. Donc là était tout le problème et j'ai opéré une comparaison stylistique avec un gros corpus de 150 œuvres environ, 158, je sais plus, puisque tous les jours je l'augmente en fait, donc je dois être à 150 maintenant. Et j'en ai conclu qu'elle était plutôt de la deuxième moitié du 15e siècle.
D'accord, donc deuxième moitié du 15e siècle, donc en Chine, nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle... au niveau historique, on en est où?
C'est encore la première partie de la dynastie. On est après, alors on est bien après le règne des Yongle. On est juste avant, autour du règne de Zhengde en fait.
On est toujours dans la dynastie Ming.
Oui, toujours dans la dynastie Ming.
Comment on fabrique une statue dorée de style sino-tibétain?
Alors déjà, ça commence par la technique de la fonte à la cire perdue. Donc cette technique, elle est très très ancienne. Hein, elle date du troisième millénaire avant Jésus-Christ, entre la Turquie et l'Irak. C'est là-bas qu'elle apparaît. Cette technique, c'est simple. On construit, on modèle la forme que l'on souhaite désirer en cire. On sculpte les détails sur ce modèle, on laisse sécher, on recouvre de terre réfractaire, donc terre réfractaire, ça veut dire terre qui va résister aux hautes températures de cuisson. On laisse sécher, on fait cuire, et en fait, on va évacuer la cire à l'intérieur du moule en terre. On aura au préalable laissé des trous des vents qui vont permettre de faire chauffer la cire et de la faire évacuer. Et là, on va couler le bronze. Je dis le bronze parce que c'est une mauvaise habitude. On va faire couler l'alliage métallique et on obtient l'objet après refroidissement en cassant le moule. Et là, on obtient un objet qui est complètement plein, hein, qui est creux. Moi, ma statue, elle est creuse. Donc, c'est une technique un petit peu plus compliquée. Ça commence toujours par un modelage de l'objet désiré en cire. On recouvre avec la terre réfractaire. On laisse cuire. On fait évacuer la cire à l'intérieur. Et en fait, on va... alors, souvent, c'est des moules bivalves. Hein, c'est des moules en deux parties qui s'ouvrent. On va constituer un noyau en terre. Qui laissera en négatif le creux de l'objet. On relie le moule avec le noyau de terre avec des petits étaux métalliques, on va dire. Et à partir de là, on fait couler l'alliage métallique et à la fin de la cuisson, à la fin de la fonte, on casse les moules et on obtient l'objet en creux. Donc, après obtention de l'objet en métal, on se débarrasse de ces trous des vents puisque on a coulé l'alliage de ces cheminées des vents. Et comme on a coulé l'alliage par ces cheminées-là, finalement, il faut aussi les enlever, il faut les élaguer. On polie. Souvent, les statues sont enduites de résine et de cire pour fixer une patine. Ensuite, on va la dorer. Il y a plusieurs techniques, hein, dans l'Himalaya. Il y a la technique de la dorure à chaud, la technique de la dorure à froid. À l'amalgame de mercure, on va mélanger de l'or avec du mercure et ensuite appliquer par-dessus cet amalgame une couche d'or qui va se fixer complètement à cette première couche. Et là encore, on va la polir, on va l'enduire de résine, de cire pour lui donner des brillants.
Maintenant que l'on a vu les procédés techniques, on peut détailler les points marquants de cette statuette. Par exemple, pourquoi a-t-elle les yeux mi-clos?
Ah, ils sont mi-clos effectivement, et c'est une illustration tout simplement de l'état de méditation, de l'état de profonde introspection, méditation. Ce vœu du bodhisattva qui prend, c'est-à-dire continuer à s'améliorer tout en prenant en charge les êtres autour de soi, prendre en charge son prochain pour l'aider à atteindre l'éveil. Mais ça passe par soi-même continuer à s'améliorer, évidemment. C'est une voie extrêmement longue, la voie du Bodhisattva. Donc la méditation reste au centre de la pratique du fidèle.
Et qu'est-ce que l'on peut voir sur sa tête?
C'est un diadème à fleurons. 5 fleurons devant, 6, un sixième derrière. Et ça, c'est une expression complètement népalaise du bijou du Bodhisattva.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, donc moi, c'est surtout la position. Maintenant, on peut voir la position des mains. Donc on va commencer par la main gauche.
Alors de la main gauche, elle effectue un geste que j'ai eu beaucoup de mal à identifier finalement. Elle effectue un geste où l'index et l'auriculaire sont tendus et ainsi que l'annulaire, et il vient plaquer le majeur sur la paume de la main avec il effectue un geste. Un mudra, c'est comme ça qu'il s'appelle, et les mudras sont d'ailleurs, pour revenir à ta question, des pratiques magiques. Les mudras sont aussi des pratiques magiques, c'est-à-dire que ils procurent des bienfaits. Malheureusement, c'est un mudra qui est assez mal documenté et qui est très très rare. C'est-à-dire que il est pas rare de voir Avalokiteshvara plutôt faire le mudra de l'argumentation. C'est-à-dire de l'enseignement en fait de la doctrine bouddhiste et en fait les deux se ressemblent beaucoup et ce mudra qui effectue vraiment qui est Karana mudra est assez mal documenté et j'ai pas encore vraiment bien trouvé de quoi il s'agit.
D'accord, donc là on a parlé donc de la main gauche, ce geste de main gauche des deux doigts arrondis avec la paume. Et on voit que dans la main droite, elle porte elle a une sorte de bouteille.
Oui, c'est ça.
Alors, quelle est la signification?
La bouteille pourrait être une illustration de d'Avalokiteshvara nourrit les prêtas, il leur donne à boire. C'est-à-dire que les prêtas sont des êtres qui après leur mort résident aux enfers parce que leur balance karmique est bien trop mauvaise pour leur permettre une meilleure réincarnation que celle-là. Et Avalokiteshvara va leur donner à boire en versant la bouteille, qui est une expression complètement pure de la compassion, là encore. Le Bodhisattva se rend aux enfers pour donner de l'attention à ces êtres qui vivent des tortures infernales. Je l'ai trouvé après avoir rendu mon mémoire, malheureusement. Mais c'est une iconographie qu'on trouve beaucoup au Népal.
D'accord. Donc on retrouve par tous ces gestes cette statuette qui compatissante, qui va aider, donc qui aide ceux qui sont aux enfers, qui médite tout en regardant, tout en prenant soin des fidèles. Après avoir vu donc sa tête, ses mains, maintenant on peut s'intéresser à sa posture. Donc cette statue, elle est en tailleur et on voit ses pointes de pied qui sont tournées vers le ciel. Ça signifie quoi?
C'est la posture du diamant. C'est la posture de méditation privilégiée par les yogis, les adeptes du Vajrayana. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette position n'a pas une signification. Extrêmement compliqué, c'est simplement une illustration de la position de méditation privilégiée par les yogis adeptes du Vajrayana. Et on parle de posture du diamant parce que dans le symbolisme du bouddhisme tantrique, le diamant c'est l'inaltérable de l'inaltérable. Donc c'est l'image de l'esprit du yogi complètement indétournable de son objectif qui est d'atteindre l'éveil. Voilà.
Très bien. Donc ça, c'est sa posture, donc la posture parfaite pour atteindre l'éveil. Et ensuite, sur cette statue, on a une sorte de bas-relief avec des lotus, c'est bien ça ?
C'est le trône, en fait.
Elle
est assise sur un trône qu'on dit lotiforme. C'est un trône lotiforme, c'est-à-dire qu'il est composé de deux rangées de pétales de lotus. Et en fait, dans le bouddhisme tantrique et dans le bouddhisme tout court, en fait, le lotus fait partie de ces symboles aussi, de cette imagerie, le message principal de la doctrine bouddhiste. C'est-à-dire qu'un lotus, c'est quoi? Un lotus, c'est une plante aquatique. Le rhizome se trouve dans la vase. La tige va s'élever depuis le rhizome, traverser la vase, grandir, traverser les flots, et la fleur va s'épanouir à l'image de l'éveil.
On est toujours donc dans l'éveil, hein, cette atteinte du nirvana. Alors moi, j'ai essayé de prendre les choses les plus marquantes de cette statuette. Est-ce que tu as encore des détails à nous dire qui pourraient, on va dire, attiser notre curiosité sur cet art sino-tibétain?
C'est-à-dire que ma statue, finalement, elle présente une iconographie qui est tantrique, mais qui est extrêmement simple. Il y a des iconographies tantriques bien plus alambiquées, avec 15 têtes, 48 bras. La mienne est assez simple, finalement. Ouais.
D'accord. Oui, c'est vrai, parce que par exemple, justement, on peut s'apesantir un peu justement sur les bras, parce que quand on revoit au musée Guimet, ce genre de statuette, parfois il y en a une à 1000 bras. Comment ça se fait que certaines statues ont 2 bras et parfois certaines en ont 4, 10, voire 1000?
En fait, dans le bouddhisme tantrique, on a beaucoup parlé de bouddhisme tibétain, mais c'est un peu réducteur, puisque ce bouddhisme, la branche du Vajrayana, elle est née en Inde du Nord, là encore, et elle s'est diffusée au Tibet, mais c'est diffusée aussi en Mongolie, en Chine, au Japon et en Indonésie. Borobudur, l'immense site de Borobudur, c'est un site tantrique. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus parlé de bouddhisme Vajrayana ou tantrique que de bouddhisme tibétain, qui me semblait un peu trop réducteur. Et donc dans le bouddhisme tantrique, les divinités peuvent prendre plusieurs formes, qui sont des émanations d'elles-mêmes, en fait, à chaque fois. Là, mon Avalokiteshvara, il a une forme assez simple, mais on pourrait aussi parler d'une émanation de l'Avalokiteshvara simple, puisqu'il est assis, il fait le geste de la bouteille renversée. Bon, voilà, on pourrait parler d'une forme particulière, mais l'Avalokiteshvara à 1000 bras, une forme extrêmement répandue dans le monde tantrique. L'Avalokiteshvara à 1000 bras, souvent on le dit à 1000 bras et à 1000 yeux, c'est-à-dire que dans chaque paume de ces 1000 bras, il y a un œil. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec ces 1000 bras et ces 1000 yeux, il devient encore plus efficace dans sa quête, dans son envie, son désir d'aider les êtres à atteindre l'éveil. Avec 1000 bras, il peut se rendre chez les dieux, il peut se rendre aux enfers, il devient complètement omnipotent, en fait, et extrêmement efficace, un vrai super-héros, quoi.
Plus la statue a deux bras, plus elle sera efficace pour aider le fidèle à atteindre le nirvana, l'éveil.
Voilà, grosso modo, dans le monde tantrique, dans le bouddhisme, mais aussi dans l'hindouisme, hein, l'hindouisme a connu des phases tantriques, plus un dieu a de bras, plus il est fort. Voilà, plus la tête, plus la bras, et grosso modo, plus il est efficace.
Yeah. terminer, quel conseil bibliographique peux-tu nous donner pour s'initier au bouddhisme tibétain et à cet art sino-tibétain?
Alors, pour s'initier au bouddhisme tibétain, je ne pense pas qu'il soit possible de s'initier au bouddhisme tibétain sans s'initier au bouddhisme tout court, parce que ce serait impossible. Enfin, on n'y comprendrait rien. Dans beaucoup d'ouvrages, hein, il y a des explications du bouddhisme assez larges, mais moi je dirais qu'il faudrait d'abord commencer par lire sur le bouddhisme en général. Dans la collection des découvertes Gallimard, il y en a un qui s'appelle Le Bouddha ou le bouddhisme, une valeur sûre, hein, il y a aucun problème. Pour s'initier au bouddhisme tout court aussi, moi je conseille les ouvrages de Philippe Cornu. Philippe Cornu, c'est un spécialiste du bouddhisme tantrique, pour le coup, du bouddhisme tibétain. Il est extrêmement bien renseigné sur le bouddhisme en général. C'est un monsieur avec qui j'ai eu cours toute l'année, qui m'a tout appris sur le bouddhisme au point de vue doctrinal. C'est un monsieur qui enseigne à l'université théologique de Louvain aussi. Il est bouddhiste lui-même, pratiquant. Et il a par exemple constitué un dictionnaire encyclopédique du bouddhisme qui est ma bible. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai ouverte depuis que je l'ai depuis 2 ans. Je me suis même surprise parfois à lire les articles dans l'ordre, comme si c'était une monographie, alors que c'est une encyclopédie. Et sinon, il a aussi écrit des manuels de bouddhisme, donc qui datent de 2019, en 3 tomes. Donc le tome 1, le bouddhisme ancien, le tome 2, le bouddhisme Mahayana, et le tome 3, le bouddhisme Vajrayana. Alors ils sont difficilement accessibles, en fait. Il faut aller sur son site internet pour les commander. Mais c'est clair, c'est limpide, c'est complet et c'est agréable à lire. Philippe Cornu, il reste quand même un spécialiste du bouddhisme tantrique. Je recommande vraiment Philippe Cornu pour le bouddhisme tantrique. Sinon, on peut trouver des explications assez complètes sur le bouddhisme tantrique dans l'ouvrage de Maître Capucin, tel les Tibétains. Alors, il est traduit de l'anglais, on peut le trouver en anglais et en français, les Tibétains. Et pour s'initier à l'art sino-tibétain, moi, ma base de travail pour mon sujet, c'était l'ouvrage de Iver Carmé, paru en 1975, qui s'appelle Early Sino-Tibetan Art, et qui, fait un gros focus sur la géographie, sur une étape, et un petit peu sur la sculpture, la partie qui me concernait le plus, pour avoir des panoramas assez généraux de l'art sino-tibétain. Alors beaucoup à l'époque Ming. Il y a le catalogue de l'exposition qui s'appelle Defining Yongle, qui a eu lieu au Metropolitan Museum à New York en 2005. Et là, il y a de tout, hein. Il y a de l'architecture, du textile, de la peinture, de la sculpture, il y a vraiment de tout. Encore plus récemment, il y a eu l'exposition l'an dernier, en 2019, qui s'appelait Face and Empire, qui a eu lieu au Rubin Museum à New York encore. Et là aussi, c'était un focus sur la dynastie Ming. Mais il faut pas oublier que la dynastie Qing a été peut-être même encore plus prolixe, en fait. C'est un énorme corpus d'art sino-tibétain, la dynastie Qing.
Là, tu nous parlais donc de conseils bibliographiques assez universitaires. Mais pour s'initier aux cultures d'Asie, tu as, avec tes ex-camarades de classe, créer un magazine internet, Tokonoma, que je te laisse présenter.
Nous, avec mes ex-camarades de l'école du Louvre, nous avons créé en 2018 un web magazine qui s'appelle Tokonoma, dont le but est de vulgariser les arts asiatiques. Donc nous, on fait un peu tout, la Corée, la Chine, le Japon, un petit peu la Mongolie, un petit peu le Tibet. Donc il s'agit plutôt d'Asie extrême-orientale. Puisque c'était notre spécialité à l'école du Louvre, la spécialité histoire de l'art de l'Extrême-Orient. Tous plus ou moins issus de cette spécialité, diverses années différentes. C'est très éclectique, c'est très marrant. Nous avons pris comme sacerdoce de démocratiser les arts asiatiques, parler d'art bouddhique, parler de peinture littéraire, de peinture confucienne, parler des influences asiatiques dans l'art européen, faire une veille des principales expositions qui ont eu lieu en France au fil du temps, rendra vraiment accessible les arts asiatiques qui sont un peu qui reste assez obscur finalement pour la majorité d'entre nous.
Alors Éléonore, quels sont donc là tu viens d'achever donc à l'EPH ton master 1. Quelle est la suite maintenant de ton parcours?
A priori là pour le master 2, je vais continuer de travailler sur cette statue, donc me pencher un petit peu plus sur son iconographie notamment qui reste encore un peu obscur. Là surtout le principal problème que j'ai eu cette année c'est que les bibliothèques étaient fermées évidemment, donc comme je travaille sur un sujet d'histoire de l'art, trouver quelqu'un qui possède chez lui un gros ouvrage, un gros catalogue d'expositions extrêmement lourd et extrêmement coûteux, en histoire de l'art on travaille sur ce genre d'ouvrage, c'est compliqué, donc il va falloir que je continue. J'exclus pas de continuer en thèse, je réfléchis encore parce que bon, ça reste compliqué de vivre et de faire une thèse. Je réfléchis encore, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer encore de travailler sur l'art cinématique des bains. Il y a énormément de choses à faire, très peu de publications en France, beaucoup en Chine, aux États-Unis, mais assez peu de choses en France. Il y a énormément de choses à voir, de la peinture, les textiles, etc. Il y a la période Ming, mais il y a encore tout à voir aussi à l'époque Qing, voir encore plus tôt et travailler plutôt sur le 9e siècle, l'influence tibétaine dans la peinture chinoise à Bien, ou même encore à Kusha et à Kashgar, Karakoto, toutes ces oasis bouddhiques, il y a vraiment tellement de choses à voir que je sais pas encore où vous donner de la tête, donc on verra.
Donc de futures grandes recherches en perspective. Merci Éléonore Nancy donc de m'avoir parlé donc de cette statuette Alokitesh Vara. Et bon courage pour la suite de tes études.
Merci de votre écoute. Rendez-vous sur le site histoiredasie.fr pour retrouver l'iconographie et les conseils bibliographiques. La discussion se poursuit sur Twitter @histoireasie. Enfin, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur vos applications de podcast. À très vite pour un prochain numéro.